OK, on va aller rejoindre l'une de nos chroniqueuses favorites. C'est comme une amie de l'émission maintenant, Mylène Moisan, chroniqueuse pour Le Soleil. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Parce que tu signes une autre belle chronique aujourd'hui. Ben, belle, je sais pas si c'est beau, mais l'histoire que ça raconte, quand même, c'est une histoire de résilience et c'est une histoire d'intérêt public. En ce sens-là, c'est une bonne histoire parce que on essaye de régler problème des fois à travers le travail que l'on fait. Et là, tu signes une chronique qui est intitulée « Il est où l'intérêt de l'enfant? »
Oui, absolument. C'est une histoire où on le cherche, cet intérêt de l'enfant, parce que dans la loi de la protection de la jeunesse, ça doit être le principe central de toute décision qui est prise. Alors, dans l'histoire que je raconte ce matin, c'est deux sœurs, des adolescentes assez vieilles. Il y en a une des deux qui a un permis de conduire. Et il y a à peu près un an, tu veux que je la raconte comme ça?
Oui, tu la racontes comme ça, on va comprendre. Oui, ben oui. Bon. Vas-y.
Donc, il y a à peu près un an, l'ambiance à la maison est vraiment catastrophique. Leur mère a un conjoint qui est violent envers la mère, qui dénigre beaucoup les filles, des mots très durs. Donc, c'est invivable. Et là, les filles font elles-mêmes un signalement à la DPJ en disant « on ne peut plus vivre ici, on n'est pas en sécurité, on n'est pas bien ».
Est-ce qu'on peut dire quel âge elles ont à ce moment-là où on préfère ne pas le faire, Mylène?
Autour de 15 ans.
Autour de 15 ans?
Entre 14 et 17.
Okay.
Donc, c'est des grandes filles, hein? Donc, qui appellent la DPJ, qui disent « sortez-nous d'ici ». Et la DPJ, cette première fois, réagit très rapidement, écoute les enfants, les sort rapidement du milieu pour les confier à une famille d'accueil.
Donc, le système marche. Au début, le système marche, c'est
exactement,
ça? Oui,
exactement. C'est ça. Comme sur des roulettes, on les écoute, on les respecte, tout va bien.
Oui.
Alors là, les mois passent et là, les filles n'ont pas vraiment de nouvelles de leur mère. Et là, en fait, les filles, ce qu'elles ont posé comme condition, c'est que pour retourner avec leur mère, il faut qu'elles laissent ce conjoint-là. Et aussi, il faut qu'elle travaille sur elle. Elle a des choses à travailler sur elle. Donc, pour les filles, c'est bien important là, que leur mère fasse son bout de chemin avant qu'elle puisse revenir à la maison.
D'accord.
Alors, pendant des mois, les filles n'ont pas de nouvelles de leur mère. La DPJ ne leur en donne pas. Et à un moment donné, l'aînée va rencontrer sa mère. Et là, elle apprend que, sa mère a laissé son conjoint depuis un bon bout de temps. Elle a fait plusieurs thérapies. Elle a travaillé sur elle. Elle a un nouveau logement. Elle a un nouvel emploi. Donc, clairement, là, elle s'est reprise en main. Et là, la mère... veut revoir ses filles, évidemment. Et là, l'aînée, tout de suite, se dit, ben maintenant que les conditions sont remplies, on va retourner à la maison. Puis en plus, ça a donné que ça fonctionnait plus vraiment là, dans la famille d'accueil. Et les filles voulaient changer de famille de toute façon. Donc, avec la nouvelle version de la mère améliorée, elles se sont dit, bon, c'est parfait. Alors, elles ont demandé là, à ce qu'elles puissent retourner là, chez leur mère. Mm-hmm. Et là, c'est passé devant le juge. Mais entre-temps, la mère s'est emportée contre une intervenante de la DPJ. Et là, la DPJ n'a pas aimé ça. Alors, voilà. Donc là, il y a eu un changement de cap à 180 degrés. Et on n'a pas proposé un retour chez la mère, mais plutôt un autre placement en famille d'accueil pour les deux adolescentes. Et là, on ne trouvait pas de famille d'accueil pour les deux ensemble. Donc, on les a séparés. Donc là, elles se retrouvent séparées et pour la plus petite, ils ont même trouvé une famille qui était dans le secteur. Elle se retrouve dans une autre ville, dans une autre école. Elle a perdu ses amis. Donc, c'est assez catastrophique parce que là, l'État paye deux familles pour s'occuper de deux filles, des grandes filles qui veulent retourner chez leur mère dans un contexte où on manque en plus de familles d'accueil. Donc, c'est assez difficile à comprendre ce genre de décision-là, je te dirais.
OK. Toi, évidemment... tu prends les témoignages et puis là, tu écoutes le témoignage des deux filles, tout ça. Et là, tu en viens à la conclusion que la DPJ a voulu punir la mère parce que la mère se serait emportée contre une intervenante, comme tu nous l'as dit. La DPJ soupçonne aussi la mère d'avoir manipulé ces deux filles, Nadia et Nancy, comme tu les appelles.
Absolument, parce qu'il faut savoir, c'est quand j'écris un code DPJ, c'est pas seulement le témoignage des filles sur lequel je me base, là, mais j'ai aussi là, souvent les rapports d'audience là, où on présente, ou les jugements où on va présenter à la fois la position du DPJ et à la fois la position des enfants pour que je puisse avoir un portrait plus complet. Puis effectivement, là, dans ce dossier-là, il n'y a rien qui est reproché à la mère en tant que compétence parentale. Ça n'a jamais été remis en question. Alors, les deux éléments qu'on donne, c'est... C'est, en fait, les deux éléments principaux qu'on donne, là, c'est justement ça, là, que finalement la mère est allée dans sa zone rouge ou la zone où elle se fâche. Et là, la DPJ prétend qu'elle pourrait se fâcher ou s'emporter comme ça devant ses filles. Et l'autre aspect, c'est ça, c'est qu'elle les aurait manipulées pour qu'elles reviennent parce qu'ils trouvent ça louche que les filles, tout d'un coup, comme ça, veuillent retourner aussi rapidement chez leur mère.
C'est pas la première fois, Mylène, qu'on se parle et que l'attitude d'une intervenante de la DPJ détermine la décision.
Absolument. C'est central. Moi, je vois des cas, j'ai aussi écrit des histoires où les choses vont bien et c'est souvent l'intervenant. Ben, dans la plupart des dossiers, il y a une valse des intervenants. Là, ça, c'est déjà en partant. Une autoroute vers l'échec, mais quand il y a une intervenante qui est stable et qui prend les décisions vraiment en écoutant les enfants, en les mettant au centre de la décision, en organisant les services autour de l'enfant, ça fonctionne vraiment souvent très bien. Et on arrive à des choses, on arrive à justement là, à ce que l'enfant soit dans un milieu, soit dans sa famille biologique si c'est possible, ou ailleurs. Mais effectivement, c'est l'intervenante au dossier a vraiment, vraiment beaucoup de pouvoir dans la façon dont un dossier est mené. Puis dans les dossiers où ça va pas bien, je vois souvent une espèce de cristallisation.
Un conflit de personnalité, on dirait.
Exactement.
C'est ça. Hein?
Absolument, absolument. Ça finit par une espèce de guerre de pouvoir. Le parent qui s'oppose parce que, par exemple, c'est sûr qu'un parent qui se fait enlever ses enfants, il est pas d'accord. Il va pas dire « Ah, c'est super, on m'enlève mes enfants ». Mais dans certains cas, cette espèce de réserve ou cette espèce de réaction que je considère quand même normale là, de pas embrasser tout de suite là, les interventions de DPJ, c'est peut-être une façon de les présenter, mais ça, c'est vraiment souvent vu comme un élément très, très, très important qui va orienter les décisions qui vont être prises. Donc, finalement, on prend les décisions en fonction de l'attitude du parent par rapport à la DPJ, mais pas par rapport à l'attitude du parent par rapport à son enfant. La base.
De là ta question, il est où l'intérêt de l'enfant? Mais là, dans ce cas-ci, le tribunal donne raison à la DPJ, ça me trouble.
Oui. Il faut savoir que dans certains cas, les juges n'ont pas beaucoup de temps. On leur présente un dossier, puis souvent la DPJ est perçue comme une espèce d'acteur neutre parce que eux, ils analysent la situation, ils font des recommandations, puis ils n'ont pas de lien personnel avec l'enfant, alors que souvent le parent va être impliqué émotionnellement, l'enfant aussi évidemment. Donc ce que moi j'avais fait des tableaux, j'avais fait un dossier il y a quand même un an et demi et j'avais fait compiler des décisions puis c'est entre 95 et 99% du temps où les juges ou le tribunal va aller dans le sens du DPJ. Donc c'est énorme.
Juste avant de te laisser, est-ce que quand tu écris une chronique comme celle-là, en général, le système réagit?
C'est dur à dire. Quand je suis trop précise, je le suis de moins en moins pour qu'on n'identifie jamais les histoires. C'est déjà arrivé où ça bouge, mais pas dans le bon sens.
Ah oui.
Ou qu'il y a des conséquences.
Des représailles.
Oui, exactement, plus négatives que positives. Ça peut arriver, mais en général, la réaction est pas positive. Je le fais surtout pour que les gens sachent un peu comment ça se passe ou pour que justement les gens peut-être à l'intérieur essaient là, de faire bouger les choses, mais c'est jamais instantané parce qu'il y a personne qui a vraiment, même le ministre n'a pas le pouvoir d'entrer dans un dossier et de faire changer une décision. Donc, c'est vraiment très, très, très difficile là, d'exposer une situation puis de dire du jour au lendemain que quelqu'un va renverser la décision parce qu'il faut encore passer par le processus judiciaire, tout ça. Donc, c'est un processus qui est très lourd. Puis justement, souvent, quand la DPJ voit qu'un certain cas a été médiatisé, bien, ils ont plus tendance à se durcir parce que ça vient amplifier la cristallisation là, du conflit.
Ils n'aiment pas ça faire remettre en question leur décision. C'est ça que ça veut dire.
Non, exactement. Voilà.
Ouais. Mylène Moisan, tu nous fais quand même réfléchir et on espère que les gens dans le système, en te lisant, y réfléchissent aussi. À la prochaine?
Oui.
Salut. On s'en va à la pause. Christian Page est de l'autre côté parce que c'est jeudi. Et bien sûr, alors habituellement, c'est plutôt vers 14h45, mais là, il sort un nouveau livre. Il va venir nous présenter son livre et préparez-vous, vous allez pouvoir lui poser des questions. Ah oui, je vous le dis, 790-9850, pas tout de suite, là, mais dans quelques minutes, avec Christian Page. Restez là.